Le thème de cette séance ce soir est la communion. Qu'est-ce que la communion ? Nous avons vu le sacrement de pénitence, maintenant nous allons voir le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie vient tout droit de la semaine sainte, c'est le Christ qui fait le repas pascal. Et donc, le repas pascal, maintenant peut être quotidien, il est principalement le dimanche, le jour de la résurrection de notre Seigneur, où nous recevons le Christ vivant, ressuscité. Mais l'origine même du sacrement de l'Eucharistie, de recevoir le Christ dans sa divinité et son humanité, son corps, son sang, son âme, sa divinité, eh bien, c'est le fruit de la messe. C'est le fruit du renouvellement du sacrifice du calvaire de manière non sanglante, la messe. Le sacrifice du calvaire, c'est le sacrifice sanglant et c'est l'offrande de toutes les offrandes d'animaux et particulièrement de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament qui s'accomplit dans la messe le jeudi saint au soir. Le Christ va faire le repas pascal, il va prendre l'agneau pascal, mais ils vont manger l'agneau pascal, en bons hébreux qu'ils sont. La Pâque a été préparée, et voilà que notre Seigneur va être le véritable agneau, et en prenant du pain et du vin, il va les consacrer en son corps et en son sang, de manière séparée, pour signifier sa mort, parce que quand on perd tout son sang, on meurt. Et donc, ce sacrifice que les Hébreux faisaient depuis la nuit de Pâques, quand ils sont sortis d'Égypte, le Christ va le faire, mais il va le faire de manière terminale. Il n'y aura plus jamais à faire le repas pascal avec un agneau, puisque maintenant, le véritable agneau, c'est lui. Alors, nous ne faisons pas de jeudi saint, ou nous ne faisons pas de messe avec un agneau, voyez, dont on mangerait la chair et le sang, on prend ce que le Christ a pris pour que ce sacrifice soit universel et puisse être mangé par tous. C'est du pain, du froment, hein, des grains de blé broyés et des grains de raisin broyés. Alors vous me direz, il y a certains pays où on ne connaît pas le vin, et bien ils l'ont connu du coup, hein. C'est bien, c'est un avantage. Et qui ne connaissaient pas le vin, eh bien, ils prennent du pain, eh bien, ils prendront du pain. Voilà. Et il n'y a jamais eu de problème, pourtant on est allé dans tous les pays du monde, on a toujours apporté le pain et le vin pour la messe, et pour signifier le caractère historique et l'origine hébraïque de cette révélation. On ne prend pas de riz, on ne prend pas de vin de palme, on ne prend pas de... je ne sais pas, de tournesol, enfin, non pas de tournesol, mais ça c'est pour l'huile. Et donc, c'est la reproduction de ce repas de Pâques, où les Hébreux vont prendre le sang de l'agneau, qu'ils vont faire cuire pour que toute la famille en mange, pendant que l'ange passe de maison en maison, et quand il voit le sang de l'agneau sur la porte, il passe. Et le passage de l'ange, la Pâque de l'ange, le passage du peuple hébreu du pays d'Égypte à la Terre Sainte, la Pâque, tout ça c'est un passage. Le passage de la mort à la vie. Donc lorsqu'on communie, eh bien on est vivifié par Dieu. Mais par Dieu qui s'est fait homme, par Jésus-Christ. Alors si vous prenez le catéchisme pour enfants, qui de nos jours est trop difficile pour les adultes, vous voyez, page 167. L'Eucharistie. En étudiant la vie de Jésus, vous avez admiré sa puissance. Il peut tout ce qu'il veut. Lazare est mort depuis plusieurs jours. Déjà son corps se décompose dans le tombeau. Jésus vient et dit « Lazare, sors du tombeau ». Lazare se lève plein de vie. Vous vous rendez compte, on disait ça aux enfants, un corps décomposé. Vous comprenez pourquoi ils sont traumatisés, pourquoi ils allaient à la messe jusqu'à la fin de leur jour. Maintenant, on ne leur dit rien, mais ils ne vont plus à la messe. Voilà. Or, Jésus a voulu nous donner son corps en nourriture. Alors, comment il va faire? Vous avez les apôtres et les juifs présents. Il dit, mon corps sera une véritable nourriture, mon sang un breuvage. Et eux, ils pensent à l'anthropophagie. Vous voyez, ils disent, mais c'est pas possible. Comment il va nous donner son corps à manger? Et puis, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Vous voyez? Donc, eux, ils voient ça d'une manière très crue, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Et les Romains et les païens persécutaient les chrétiens. Et un des crimes qu'on reprochait aux chrétiens, à part celui de... c'était l'anthropophagie. On mangeait des êtres humains à la place du Christ, à l'Eucharistie. Ils interprétaient, bon, ils savaient très bien que c'était faux, mais enfin, ils disaient, quoi, vous mangez le Christ? Donc vous mangez de la chair humaine. Ensuite, comment? Oui, 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 ben ce sont les descendants de Diderot, hein, ils descendront avec Diderot là où on descend. Et donc, comme les chrétiens, quand ils trouvaient des bébés jetés dans les forêts, hein, l'exposition des enfants, c'était le père de famille, quand il considérait que cet enfant il n'en voulait pas ou qu'il en avait trop ou autre, ils allaient mettre le bébé dans une forêt et ils repartaient à la ville. Et les chrétiens, parfois exprès, hein, allaient dans les forêts, mais sinon, en marchant dans une forêt, s'ils trouvaient un bébé, ils savaient très bien que c'était la manière. Vous voyez, les Romains n'osaient pas faire des avortements in utero, hein, comment dire, ça atteignait éventuellement la santé de la mère. Hein, ils voulaient mieux attendre que l'enfant sorte, et on le tuait après. Voilà. Donc, comme on n'osait pas tuer l'enfant, par peur de s'attirer la malédiction des dieux, eh ben on jetait l'enfant dans la forêt, on laissait la faim, la soif, les bêtes sauvages faire le travail, ou le froid. Et donc on accusait les chrétiens de manger ces bébés qu'ils trouvaient. Jésus a voulu nous donner son corps en nourriture. Il le promit à ses apôtres et aux juifs qui le suivaient après le miracle de la multiplication des pains. Multiplication de la matière. Et il n'y a que Dieu qui peut créer le moindre atome. Quand Saint Jean Bosco, lors d'une sortie de catéchisme, ils n'avaient que 2 sacs de noisettes. Et pour une centaine d'enfants. Donc le goûter n'allait pas être extraordinaire. Voyez. Eh bien, il s'est mis en prière et les noisettes se sont multipliées dans le sac. Les noisettes ne cessaient pas. Et il y a quelques noisettes qui sont dans le musée de Turin, dans la maison mère des Salésiens. Salésiens, c'est l'institut fondé par Saint Jean Bosco, en l'honneur de Saint François de Sales, mais en fait c'est lui qui l'a fondé. Voyez. Ensuite, vous avez le Saint Curé d'Ars, à un moment donné, justement, qui manquait de pain pour sa petite école qui était à Ars. Il s'est mis en prière et le lendemain, le grenier était plein de sacs de farine. Alors vous allez me dire, bon, ils ont acheté de la farine ou quelqu'un a fait un don et ils ont rempli le grenier pendant la nuit. Non, hein, c'est de la création. Ensuite, il y avait du pétrin et justement il n'y avait plus assez de pain. Mais il y avait une boule de pâte à pain pour faire 3 miches hein, seulement. Donc le Saint-Curé d'Ars se met en prière et le boulanger n'arrêtait pas d'en sortir des miches de ce pétrin. Il en a fait une vingtaine. C'est comme si j'avais une bouteille de vin et que je serve avec une seule bouteille 100 personnes. Vous voyez. Donc on dirait, cette bouteille, c'est pas mal, hein, c'est la corne d'abondance. Et vous avez donc aussi le prophète Élie, pendant la famine. Il a été recueilli par une veuve et elle avait une fiole d'huile et un petit pot de farine. Et le pot de farine, pendant 3 ans et demi, hein, ne s'est pas vidé et la fiole d'huile ne s'est pas vidée. Ce qui est très intéressant pour faire des galettes. Vous voyez. Eh bien, pourtant, elle a nourri le prophète Élie, tout se passait bien. Et puis, la famine s'était arrêtée, c'est là que il y a eu la comment dire elle a son fils qui était avec elle est mort plus tard. Elle retourne voir le prophète et dit, tu as fait de beaux miracles quand tu étais avec moi, n'est-ce pas? Mais mon fils est mort. Alors Élie va prier, prier, va souffler sur l'enfant, supplier le bon Dieu, se mettre sur l'enfant, main contre main, pied contre pied, pour lui transmettre la vie, n'est-ce pas, dans une prière. Hein, c'était Dieu qui lui transmettait. Et l'enfant va finir par ressusciter. Mais alors, il a prié pendant plusieurs minutes. Vous voyez. Notre Seigneur, lui, quand il ressuscite, c'est un acte de volonté divine. Vous voyez. Mais si vous voulez, l'existence des miracles est indispensable à la compréhension de l'action divine sur terre. Si vous éliminez les miracles de l'histoire humaine, bien c'est vrai que la religion est très abîmée. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire un miracle non visible, donc le plus exigeant de tous les miracles. Après, le miracle de la multiplication des pains, donc création de matière. Vous voyez, vous aviez les apôtres, ils avaient des paniers de pain, et ils donnaient, et les pains étaient créés à mesure qu'ils sortaient. Et les poissons aussi. Et alors il leur dit, « Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Et là, scandale. Et vous avez une partie des disciples qui quittent le Christ à ce moment-là. Ces paroles sont trop difficiles à entendre. Et alors, la veille de sa mort, le jeudi saint au soir, comme il avait rassemblé ses apôtres dans un dernier repas, il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous. » Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, le corps qui est livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour un grand nombre en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi, il ordonne ses apôtres, prêtres. Et la Vierge Marie n'était pas là, dans un petit coin, sinon elle aurait été évêquesse. Mais non, la Vierge Marie n'a pas été évêque. Ceux qui sont là, il les ordonne à célébrer l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre. Et je peux vous assurer que quand Jésus demandait quelque chose, ils obéissaient. Comprenez bien ce que Jésus vient de faire. Dès qu'il dit « Ceci est mon corps », le pain est changé en son corps. « Ceci est mon sang », le vin est changé en son sang. C'est une parole efficace de Dieu. Quand il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi », il donne à ses apôtres et à tous les prêtres le pouvoir de changer comme lui le pain en son corps, le vin en son sang. Vous voyez, j'ai anticipé. Tellement c'est extraordinaire. Ici, vous avez l'institution du sacerdoce. C'est depuis ce jour-là que l'Eucharistie est instituée. Alors, cette institution de l'Eucharistie, c'est donc à la fois le saint sacrifice de la messe, mais le fruit de ce sacrifice, c'est la sainte hostie. D'où la question 218. Qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie, en grec, ça veut dire la belle grâce, la vraie grâce, la grande grâce. EU, c'est bon, c'est vrai. Et charisme, c'est don, grâce, la bonne grâce. La grâce excellente, mais Dieu lui-même. Hein, donc, les autres sacrements nous font approcher de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie nous illumine notre âme de la présence divine, renforce, augmente la présence divine en nous. L'Eucharistie est un sacrement, c'est-à-dire le signe de la grâce. On nous donne ce qui ressemble à du pain. et on le mange. Ça, c'est le signe. On nous donne ce qui ressemble à du vin et on le boit. Ça, c'est le signe. Et qu'est-ce que, et alors, quel est l'effet de ce signe? L'eau nous lave ou l'eau nous noie. C'est ça le signe du baptême. Alors, quel est l'effet? Noyade. Mais l'effet de la noyade, c'est de mourir. Et quand l'eau cesse de couler, quel est le signe? Eh bien, qu'on respire à nouveau et qu'on ressuscite. Un sacrement, c'est un signe efficace de quelque chose, d'une grâce invisible. Mais c'est un signe. Alors, vous allez me dire, quel est le signe de du sacrement de confession? Eh bien, c'est vos paroles qui exprime les péchés que vous avez faits. Et la parole du prêtre qui pardonne. Et c'est quoi les signes? Ben là, c'est des sons. C'est pas rien, des sons. Parce que le baptême, d'ailleurs, c'est pas seulement de verser de l'eau et de rien dire. C'est-à-dire, je te plonge, je te noie, et tu vas ressusciter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te plonge dans l'eau et je vais te sortir de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas mourir comme le Christ et ressusciter comme le Christ. Voilà ce que ça signifie. Et le prêtre, ou le laïc, ou même le non-baptisé, peut plonger dans l'eau au nom de la mort de Jésus et de sa résurrection. Un non-baptisé peut vous baptiser. Mais vous, vous ne pouvez pas vous baptiser. À ce moment-là, vous êtes là, agonisant, vous êtes écrasé par vous alliez à la veillée pascale, il y a un bus qui vous passe dessus, vous êtes là, c'est vraiment très dommage. Vous dites, heureusement que l'abbé nous a parlé du baptême de désir. Parce que là, vous dites, Seigneur Jésus, j'aurais vraiment voulu être baptisé ce soir. Et puis, il n'y a personne, il n'y a pas d'idée, vous pouvez prendre de l'eau et me baptiser mon fils, un esprit. Pas comprendre, moi je suis tchèque, moi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je veux dire, bon. Et bien là, vous dites, vous faites un bel acte de contrition, vous offrez votre vie, vous offrez votre désir du baptême, et vous mourrez. Et vous allez au ciel, aussi. Oui. Mais, voyez-vous, le baptême d'eau, quand il est possible, vaut mieux que le baptême de désir. C'est-à-dire que celui qui dit « Ah, mais j'ai le baptême de désir » et qui va jamais aller, jamais être baptisé et qui ne va jamais aller à la messe le dimanche, il y a un problème. Il n'obéit pas à la volonté de Dieu qui est de nous rassembler pour prier, pour garder la foi, l'espérance et la charité, si possible. Eh bien, l'Eucharistie, le signe de l'Eucharistie, ça va être de manger et d'assimiler la nourriture que l'on mange. Donc ça, comme cette nourriture n'est pas très nourrissante, eh bien ça veut dire que c'est une nourriture spirituelle, bien plus intense que la quantité de blé que vous allez prendre. Et je vous avais déjà expliqué, mais je vous le redis pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, que la messe étant un sacrifice, on sacrifie la victime, on la tue, on l'offre à Dieu, mais cette victime est vivante, malgré sa mort, elle est ressuscitée, et elle nous nourrit. Mais dans les sacrifices de l'Ancien Testament, vous aviez l'Holocauste, et la victime était totalement consumée. Ou alors vous aviez le sacrifice d'action de grâce, et les prêtres, ou ceux qui avaient offert la victime, en mangeaient une partie. Ici, c'est mélangé. C'est tous les sacrifices dans l'Ancien Testament en un seul. On le mange, mais en même temps, c'est un holocauste, il ne doit rien rester de la victime. D'ailleurs, l'agneau pascal devait être mangé totalement, et le reste devait être brûlé. Il ne devait pas y avoir de reste de la victime sacrée. Et bien là, le prêtre, lui, doit consommer le corps et le sang. Sauf que le signe du corps, qui est le pain solide, et le signe du sang, qui est le liquide, si vous voulez, c'est pour le signe. Mais Jésus vivant est tout entier présent dans l'hostie, est tout entier présent dans le précieux sang. C'est pour ça qu'en Occident, on ne communie, pour des raisons pratiques, que à l'hostie. Parce que communier au calice, Ça fait très moderne, spirituel, mystique en messe de semaine, quand il y a une dizaine de personnes. Mais quand vous avez 200 personnes, vous êtes là avec la coupe, tout le monde boit à la coupe. Alors non, on va faire la communion par intinction. C'est-à-dire qu'on prend l'hostie, on plonge l'hostie dans le précieux sang et on vous communie. Forcément, on vous communie. On ne va pas mettre l'hostie sur votre main alors qu'il y a du précieux sang. Vous allez lécher, ça va être digne, vraiment très digne. Donc, en Orient, on a voulu maintenir la communion au corps et au sang et on s'est dit, mais comment on va faire vu la multiplication de baptisés. Si vous voulez, du temps de Saint-Pierre, on prenait et l'hostie et la coupe. Tout le monde communiait à la coupe. À quel moment on a communié que à l'hostie pour les fidèles, mais le prêtre devait signifier l'holocauste et toujours consommer les deux, ça, on ne sait pas exactement. Mais en Orient, on s'est dit, c'est un peu dommage, on veut aussi avoir le précieux sang. Bien que le Christ soit aussi avec son sang dans l'hostie, hein, il est vivant. Et bien du coup, on n'a pas pris du pain azyme, on a pris du pain levé, on l'aplomb et on le consacre et on le plonge dans le précieux sang, après avoir consacré le précieux sang. Ce qui fait que vous avez un calice ciboire où vous avez le précieux sang, on dépose l'hostie. En apparence de pain levé, hein, mais la substance c'est notre Seigneur, l'apparence c'est toujours du pain, vous le plongez dans le précieux sang, et il a été prédécoupé, et avec une petite lancette ou une petite cuillère, le prêtre prend un petit dé d'hostie et de précieux sang, et le dépose sur la langue. En Orient, il est impensable de communier sur la main. C'est même pas possible. Voyez. Mais comme en Occident, pour des raisons pratiques, on a écarté le baptême par immersion parce que la personne devait être toute nue, il devait y avoir le parrain pour un homme, la marraine pour une femme, et que ce n'était pas pratique, n'est-ce pas, pour un adulte. Et pour un bébé, bah, il fait froid par chez nous. Donc, le mettre tout nu dans le baptistère, on a fini par faire couler l'eau sur la tête. Mais normalement, pour signifier quand même la noyade. Enfin, c'est un peu léger. Alors moi, j'essaye de mettre plein d'eau sur la tête de l'enfant pour qu'il arrête de respirer au moins une seconde. Ah. Non, vous voyez, c'est pas pratique. Et pour les adultes, vous voyez, on est là. Alors la tête doit être normalement un peu penchée. Mais en fait, on fait couler sur le front. Si moi je vais faire couler un peu sur le nez, hein, et couvrir le nez pour qu'il y ait, hein, bien l'impression de manquer d'oxygène, voilà, pour que le signe soit plus fort. Et, alors vous avez des prêtres un peu fatigués, hein, oh, la personne se penche et on baptise les cheveux. Alors il y en a qui disent, ah bah alors il n'est pas valide. Oh, il y a bien une goutte qui est arrivée jusque la peau. Bon, et puis les cheveux c'est quand même nous, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Le signe. Ici le signe c'est de manger ou de boire. Et donc d'être vivant. Parce que si vous ne buvez pas, au bout de 3 jours, vous mourrez. Et si vous ne mangez pas, au bout de 40-60 jours, vous êtes très maigre et pas avec beaucoup de faiblesse. Oui. Mais il faut boire. Hein. Les vraies grèves de la faim, c'est boire, 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 boire. Et au bout de... Les plus résistants, ça peut être 60-70 jours. Hein. Enfin, ils sont très maigres à la fin, quand même. Toutes leurs réserves sont bien pompées. Voilà. Et puis, à la fin, ils ont du mal à manger à nouveau. Hein. Ils ont un estomac qui s'est rétréci. Et bien là, voyez-vous, c'est de la nourriture. Et c'est Dieu qui se donne en nourriture. Petite note. Alors là, c'est pour les CM2. Attention, ça va être trop compliqué, peut-être. Hein. La note, c'est pour les CM2. Il y en a peut-être parmi vous qui ne vont pas pouvoir suivre, mais je vous préviens. Les apparences du pain, les apparences du vin, sont ce qui apparaît à nos sens, comme la couleur, le goût, la forme du pain et du vin. C'est ce qu'on appelle les espèces. les apparences. Le terme technique, c'est les espèces du vin, les espèces du pain. Espèce, c'est spectacle, ça donne spectacle en français. Species, c'est ce qui se regarde. Une espèce, c'est dans un genre ce qui se différencie. Mais c'est ce qui se regarde. Les espèces du pain et les espèces du vin. Je passe et je vous dis apparence du pain, apparence du vin. Mais ce qui, l'être même du pain et du vin, ce qui fait du blé, ce qui fait du vin, c'est ce qui soutient la matière, c'est la substance d'une chose. Vous voyez, la substance des atomes de carbone, vous voyez, elle est là. Si je mets le feu à cette chaise, les atomes de carbone, quand ils se délitent, quand ils se séparent, ils deviennent noirs. Mais ça reste des atomes de carbone, même carbonisés, justement. Mais les atomes de carbone qui sont mélangés à d'autres carbones et qui font le bois n'est pas 100% carbone. Hein. Mais on reconnaît le carbone parce que lorsqu'il est en combustion, il devient noir. Donc si vous voulez savoir si vous avez du carbone dans les cheveux, hein, vous mettez vos cheveux et puis vous mettez de... Voilà. Et alors ça donne une odeur aussi de brûlé, hein, de carbone. De cochon brûlé. Oui. Eh bien voilà, ce sont des apparences. Eh bien ces apparences, pourquoi je peux pas m'empêcher de plaisanter d'abord. Mais voyez-vous, c'est parce que aussi on s'est moqué de la présence réelle, de la transsubstantiation. Mais c'est du pain, oui. Mais c'est du vin. Eh bien, Dieu seul peut mettre un être différent dans une apparence différente. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de l'Eucharistie ? Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie le jeudi saint, la veille de sa mort. Que fit Jésus-Christ pour instituer l'Eucharistie ? Pour instituer l'Eucharistie, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps. » Il prit ensuite le calice, où était le vin, et le donna à ses apôtres en disant « Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'a fait Jésus-Christ par ses paroles ? « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et le catéchisme par question-réponse, il est redoutable. C'est ou c'est vrai ou c'est faux. Voilà. C'est pas de la théologie de salon. Oui. Par ces paroles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Jésus-Christ a changé le pain en son corps et le vin en son sang. Qu'a fait Jésus-Christ par ces paroles « Faites ceci en mémoire de moi ». Par ces paroles, faites ceci en mémoire de moi, Jésus-Christ a donné à ses apôtres et à tous les prêtres le pouvoir de changer comme lui le pain en son corps et le vin en son sang. Quand se fait le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ ? Le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ se fait à la messe, au moment de la consécration. Lorsque le prêtre prononce les paroles mêmes de Jésus-Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est la consécration. Et c'est pour ça qu'il y a des psaumettes. Si vous étiez absorbé dans une oraison très profonde, ou dans une contemplation personnelle, ou si votre ange gardien vous était apparu pour vous inviter à une grande sanctification, bling, au moment où le prêtre va commencer à mettre les péchés sur la victime, le hanc qui gitour. Voici cette oblation. Alors là, même si votre ange gardien était en train de vous apparaître, il part et il va à l'autel. Et là, vous étiez là. Oh, j'ai discuté avec mon ange gardien, il est parti. Oui, parce que maintenant, tous les anges, et je peux vous assurer qu'à chaque messe, vous avez des millions d'anges. De toute façon, les anges, ils sont de milliards de milliards. Imaginez le nombre d'anges à chaque messe. Imaginez le nombre d'anges qu'il y a en ce moment dans l'église. À chaque fois qu'il y a le Saint-Sacrement, Et vous avez des millions d'anges qui adorent le Saint-Sacrement. Vous allez me dire, bah alors c'est pas la peine de laisser ouvrir les églises puisqu'il y a tant de personnes angéliques qui sont là à adorer le Seigneur. Oui, enfin, notre Seigneur s'est incarné et des êtres humains doivent aussi être là. Mais je peux vous assurer que les anges adorent le Saint-Sacrement. Et donc, normalement, un prêtre qui confesse pendant la messe, suivant l'usage traditionnel, eh bien, doit s'arrêter, inviter son pénitent à se recueillir, même à sortir du confessionnal, pour adorer lors de la consécration. Qu'y a-t-il sur l'autel avant la consécration ? Avant la consécration, il n'y a sur l'autel que du pain et du vin. Qu'y a-t-il sur l'autel après la consécration ? C'est très didactique, hein ? Si vous n'avez pas compris, hein, c'est que vraiment, il fallait retourner en CM2. Hein. Après la consécration, il y a sur l'autel Jésus-Christ tout entier. Jésus-Christ tout entier. Sous les apparences du pain et tout entier. Sous les apparences du vin. Ah, c'est très important, c'est ce que je vous disais, mais ça c'est dit pour les enfants, mais c'est très difficile, comment dire, pour certains.